Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde.
Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition spéciale de Géopolis où nous allons revenir sur le climat très tendu à la frontière orientale de l'Ukraine sur fond de pression militaire russe et de négociations sous tension. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Madame Marie Dumoulin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors Madame Dumoulin, vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du European Council of Foreign Relations, un think tank qui travaille notamment sur la politique étrangère de l'Union. Vous aviez auparavant travaillé au sein de la diplomatie française. Alors Madame Dumoulin, je le disais, on le sait, hein, des bruits de bottes se font entendre à la frontière ukrainienne depuis des mois maintenant. Sait-on exactement le nombre de troupes qui sont mobilisées dans cette région ?
Alors, il y a eu différentes informations qui ont été publiées, notamment dans les journaux américains, qui font état de la présence de 100 à 175 000 hommes du côté russe de la frontière ukrainienne. Ce sont des estimations. Je n'ai pas, moi, la capacité de dire dans quelle mesure elles sont exactes ou elles devraient être ajustées.
Il y a de gros débats sur la question, des sources très divergentes ou alors les chiffres que vous nous avez cités dans la communauté occidentale, ils font un consensus.
Je crois que ça fait globalement consensus. Encore une fois, il s'agit d'informations qui pour la plupart sont classifiées, donc s'il y a d'éventuelles divergences, ça ne ressortira pas dans la sphère publique. Mais je crois que dans l'ensemble, il y a consensus pour considérer qu'il y a un déploiement considérable de forces russes aux frontières ukrainiennes.
Et maintenant, ça fait combien de temps exactement ? Je parlais de mois, mais...
Il y a eu une première étape au printemps au cours de laquelle les Russes ont déjà fortement renforcé leur dispositif militaire. Et puis ils avaient retiré une partie des troupes déployées à ce moment-là, mais une partie seulement. Et depuis le mois d'octobre ou novembre, on a assisté à un nouveau renforcement, cette fois-ci encore plus considérable et surtout beaucoup plus durable, du dispositif déployé par la Russie.
La partie russe, ils le reconnaissent, ce déploiement, ou alors ils le nient ?
Non, ils ont pas de raison de le nier. Alors, ils le présentent souvent comme une préparation à des exercices, mais il s'agit de troupes qui sont déployées sur leur territoire, et donc ils considèrent qu'ils n'ont pas à s'en cacher.
Est-ce qu'on sait, Madame Dumoulin, l'objectif véritable du Kremlin par de telles manœuvres, l'idée derrière vraiment envahir l'Ukraine, continuer de la déstabiliser, faire la jonction territoriale entre la Russie, la Crimée, voire la Transnistrie ?
Alors c'est un sujet sur lequel il y a débat, parce que certains considèrent qu'effectivement l'objectif recherché par la Russie est vraiment d'intervenir militairement de manière beaucoup plus massive en Ukraine, voire de conquérir une partie du territoire ukrainien. D'autres estiment que le coût à la fois militaire, financier, politique et humain de telles opérations est totalement démesuré et qu'il s'agit essentiellement de créer une pression à la fois sur l'Ukraine et sur les pays occidentaux pour négocier un certain nombre de choses, notamment concernant l'extension de l'OTAN et son éventuelle extension à l'Ukraine.
Alors justement, on va reparler de l'extension de l'OTAN, mais avant, un petit rappel aussi de ce que vous dites, hein, vous l'affirmez, il y aurait un coût démesuré de nouvelles opérations russes en Ukraine, et on le sait, sur un fond déjà tendu, il y a la Crimée qui a été annexée en 2014, qui était quand même territoire ukrainien depuis l'indépendance de ce pays en 91, et puis il y a déjà la guerre, hein, dans l'est de l'Ukraine, dans ces deux régions séparatistes autour de Donetsk et Lugansk, qui ont donné lieu elles aussi à une guerre qui continue et qui a déjà fait 14 000 morts. Hein.
Oui, tout à fait. Mais alors, s'agissant de cette guerre dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, la Russie a toujours prétendu ne pas être présente dans cette région et indiqué qu'il s'agissait de combattants séparatistes locaux. Qui ne bénéficiaient pas de, et qu'aucune troupe russe n'était présente sur le terrain. Ça n'est pas la manière dont les pays occidentaux le voient, mais c'est la manière dont la Russie l'a présenté. intervenir militairement au-delà de ces deux régions signifierait pour la Russie changer ce discours et reconnaître qu'elle est maintenant elle-même en guerre avec l'Ukraine.
Alors vous le disiez, la Russie ne reconnaît pas être présente, notamment dans l'est de l'Ukraine. Et en préparant l'émission, j'ai encore entendu une affirmation du vice-ministre russe, Monsieur Grushko, hein, c'était hier, qui disait qu'il n'y avait pas du tout de présence russe en Ukraine, au contraire de l'OTAN. C'est quoi un total déni de réalité, on peut dire ça?
C'est une manière de mettre l'OTAN en accusation et de dire que l'OTAN a une présence, même si l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, un certain nombre de pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine. Il y a une part de fantasme certainement dans cette vision russe parce que le soutien qui est apporté aux forces armées ukrainiennes par un certain nombre de pays de l'OTAN n'est en aucun cas une présence militaire de ces pays de l'OTAN en Ukraine. Et puis il y a effectivement du côté russe une manière de dire nous ne sommes pas présents et de rejeter toute responsabilité dans le conflit du Donbass. Ça permet aussi aux Russes de dire que dans les négociations sur ce conflit, ça n'est pas à eux qu'il faut s'adresser, mais aux séparatistes eux-mêmes.
Alors vous parliez du soutien des Occidentaux à l'Ukraine et notamment à l'armée ukrainienne. Il est significatif ce soutien?
Alors, il y a certains pays qui sont fortement engagés avec l'Ukraine, plus sur du soutien comment dire, au renforcement des capacités, donc de la formation des militaires, du conseil sur la manière de fonctionner. La Turquie a maintenant une coopération militaro-industrielle qui est bien établie avec l'Ukraine et qui probablement inquiète la Russie. Mais il n'y a pas de coopération massive de l'OTAN en tant que telle avec l'Ukraine. Il y a des coopérations parce qu'il y a un partenariat entre l'Ukraine et l'OTAN, mais ça n'est probablement pas quelque chose qui contribue de manière décisive au renforcement des armées ukrainiennes.
Alors, je crois qu'on peut le dire, hein, il y a une sorte de fixation du Kremlin sur l'Ukraine. Je le rappelais, annexion de l'Ukraine, de la Crimée en 2014, soutien aux séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Cette fixation, elle est due à quoi? Au fait qu'au Kremlin ne reconnaît pas véritablement l'indépendance de l'Ukraine, ou alors on supporte pas du tout son caractère démocratique?
Alors, je crois que c'est lié à la manière dont Vladimir Poutine lui-même envisage l'identité de la Russie comme une identité, enfin, une identité slave. Et il l'a dit et il l'a même écrit encore récemment dans un essai qu'il a publié au mois de juillet. Pour lui, l'Ukraine est une partie du peuple russe. Le peuple ukrainien et le peuple russe ne sont pas seulement des peuples frères ou apparentés, il s'agit vraiment d'un seul et même peuple. Et donc il y a, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel pour Vladimir Poutine, une incompréhension de l'indépendance de l'Ukraine en tant qu'État.
La Russie a demandé des négociations pour éviter que l'Ukraine rejoigne l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Cependant, j'ai l'impression qu'il n'en a jamais véritablement été question. Il y a eu des discours, mais il n'y a jamais vraiment eu d'avancée sur ce point.
Alors, ce qui continue à perturber ou inquiéter les Russes, c'est la politique dite de la porte ouverte, qui avait été décidée en 2008 lors du sommet de Bucarest de l'OTAN, où la déclaration finale de ce sommet indiquait que, à terme, l'Ukraine et la Géorgie pourraient envisager, si elles le souhaitaient, de rejoindre l'OTAN. C'était une phrase qui, à l'époque, avait été conçue comme quelque chose de très peu engageant pour l'OTAN. Mais depuis 2008, les Géorgiens et les Ukrainiens ont fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'OTAN et ont clairement affiché leur souhait de rejoindre cette organisation à terme. C'est un objectif qui est même inscrit maintenant dans la constitution ukrainienne. Et pour les Russes, c'est évidemment une perspective qui les effraie parce que ça signifierait que l'OTAN serait aux portes de la Russie.
Alors face à tout ce climat que vous nous avez décrit, cette pression sur les frontières orientales, c'est quoi l'état d'esprit en Ukraine, à la fois au sein de la population et de l'élite politique?
Alors le discours officiel, et je crois que c'est aussi l'état d'esprit de la population, est relativement calme en fait. On n'a pas le sentiment qu'ils perçoivent le risque d'une invasion russe comme un risque imminent. Et en tout état de cause, les autorités ukrainiennes disent si ça se produit, notre armée se défendra. Alors c'est un langage qu'on peut comprendre parce que il faut éviter de créer des mouvements de panique dans la population, mais ça donne pas le sentiment que les autorités ukrainiennes soient réellement inquiètes d'un risque imminent d'opérations militaires russes sur leur territoire. Le gouvernement ukrainien rappelle également que, de fait, dans le Donbass, il y a déjà des opérations militaires russes en cours.
Alors on le disait, il y a aussi sur ce fond hein, de pression militaire, il y a aussi des négociations. Les Russes ont obtenu des négociations sur ce sujet de l'extension de l'OTAN avec les Américains, qu'ils estiment d'ailleurs être les seuls interlocuteurs valables hein, sur cette question. C'est quoi l'idée? C'est une tentative de revenir aux grandes heures des sommets américano-soviétiques?
Alors c'est certainement le souhait des Russes. La manière dont ça s'est passé cette semaine est un peu différente et les Américains ont veillé à ce que ça ne se passe pas strictement dans un cadre bilatéral américano-russe, mais à ce que leurs alliés soient associés à ces discussions. Donc on a eu une séquence cette semaine où il y a eu une première réunion entre Russes et Américains, où il a été question surtout de questions de mécanismes de transparence, de mesures de confiance, de contrôle des armements, et de questions qui pouvaient se discuter dans un cadre bilatéral américano-russe. Mais la question de la présence de l'OTAN dans l'environnement de la Russie a surtout été discutée à l'occasion d'un conseil OTAN-Russie, qui s'est tenu également cette semaine. Et puis, il y a eu une troisième réunion importante cette semaine qui s'est tenue à l'OSCE, cette organisation qui est un peu la seule organisation vraiment englobante, du continent, européen et dont la vocation est de parler de sécurité européenne.
Alors les Américains ont essayé d'associer les Européens et les Ukrainiens, mais quand même de façon indirecte, parce qu'ils sont pas vraiment dans la négociation, ce qui peut paraître étonnant, hein. Le sort de l'Ukraine se joue un peu en leur absence quand même.
C'était l'intérêt d'avoir cette séquence diplomatique qui se terminait par une réunion à l'OSCE parce que l'Ukraine est présente à l'OSCE et je pense que les Américains avaient à cœur de montrer que le sort de l'Ukraine ne serait pas discuté sans l'Ukraine.
Alors, il y a eu une partie de ces négociations. On le voit, il y a trois volets, mais l'un de ces volets, c'était à Genève, entre les numéros 2 des affaires étrangères de la Russie et des États-Unis. Qu'a donné ce début de dialogue et comment va-t-il se poursuivre?
Alors après cette réunion, les Russes ont vraiment soufflé le chaud et le froid sur les résultats de la discussion. Ils ont dit à la fois qu'ils avaient le sentiment que leurs préoccupations avaient été prises au sérieux par les Américains et qu'il y avait de vraies questions de substance sur lesquelles les Américains étaient prêts à discuter. Et en même temps, ils ont dit que pour eux, la question fondamentale restait celle de l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et que tant qu'il n'y aurait pas d'engagement pris sur cette question, ils considéreraient que leur demande n'avait pas été entendue. C'est un peu en demi-teinte, sans doute parce que les Russes espèrent pouvoir obtenir davantage de ces discussions et donc continuent à maintenir une certaine pression. Sans doute aussi parce que, in fine, sur ces questions, à Vladimir Poutine lui-même qu'il reviendra de décider si le compte y est ou pas, et que les personnes qui ont participé directement à ces discussions et qui se sont exprimées à la suite de la réunion de Genève ne savent pas quel sera l'arbitrage que fera Vladimir Poutine à terme.
Est-ce que cette politique russe vis-à-vis de l'Ukraine, elle n'est pas à long terme extrêmement contre-productive? Parce que je lisais des études, des sondages hier en préparant l'émission. 80% des Ukrainiens considéraient quelques années la Russie comme un pays ami. Ils ne sont plus que 8%. Et 20 seulement pour cent des Ukrainiens souhaitaient rentrer dans l'OTAN, là aussi il y a 4-5 ans, et ils sont plus de 50% aujourd'hui.
Ah ben, il est clair que la Russie, par ses actions vis-à-vis de l'Ukraine, a contribué à retourner une grande partie de l'opinion ukrainienne contre elle. Ce qui n'est pas clair, en revanche, c'est si les Russes s'en rendent compte. Ils ont beaucoup perdu en connaissance de ce pays et en compréhension de ce pays, et il n'est pas exclu qu'ils vivent encore dans un monde où les Ukrainiens, et notamment les Ukrainiens russophones, seraient spontanément des amis de la Russie. Mais en réalité, leurs actions ont contribué à consolider une identité ukrainienne qui est vraiment distincte de la Russie.
Ah oui, ce que vous nous dites, c'est que les Russes se sont pas du tout mis à la page de ce qui est devenu l'Ukraine, de la façon dont elle a évolué, hein.
Oui, tout à fait. Ils ont vraiment perdu, je crois, leur capacité de compréhension de ce pays.
Alors, un dernier sujet pour conclure, si vous voulez bien, Madame Dumoulin, il y a la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui commence. On le sait, il y a de grands objectifs, hein, d'Emmanuel Macron, notamment pour le renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union, de sa souveraineté. Est-ce que tout ce qui se passe à la frontière orientale de l'Ukraine, ça peut pousser, encourager, donner un coup d'accélérateur à la réalisation de tous ces objectifs?
En tout cas, c'est certainement une situation dans laquelle les Européens ont intérêt à définir des intérêts partagés sur leur sécurité. Et donc, on peut espérer que cette situation les conduise à avoir un débat sur leurs intérêts de sécurité que les Français ont appelé de leurs voeux depuis assez longtemps maintenant.
Au sein de l'Union européenne, il y a un relatif consensus sur la façon de voir et d'envisager ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie actuellement.
En tout cas, c'est la manière dont se sont positionnés les États européens dans les différentes discussions auxquelles ils ont participé cette semaine, aussi bien à l'OTAN qu'à l'OSCE. Ils ont affiché leur unité, ce qui est un élément évidemment très important, pour la poursuite de ces discussions.
Oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas quand même. Il y avait quand même au sein des 27, il y avait quand même des pays assez proches de la Russie, hein. Je pense à la Tchéquie, la Hongrie, à Chypre, tout ça, ça change un peu.
Je suis pas sûre que ça change fondamentalement, de la même manière que les États les plus prudents vis-à-vis de la Russie et ceux qui étaient notamment les plus critiques de l'initiative d'Emmanuel Macron de relancer un dialogue avec la Russie en 2019. Je suis pas sûre que les fondamentaux aient vraiment changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est que la pression russe et la volonté russe de remettre en question un certain nombre de principes fondateurs de la sécurité européenne font que, sur ces questions de principe, les Européens souhaitent afficher leur unité. Mais il reste des divergences d'analyse dans la manière de traiter avec la Russie.
Bien, je vous remercie très chaleureusement, hein, Madame Dumoulin, d'avoir bien voulu revenir avec nous sur toute cette actualité, hein. On le sait, un petit peu compliqué à l'est de l'Union. Je rappelle, Madame Dumoulin, que vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du European Council of Foreign Relations, un think tank basé à Bruxelles et qui travaille notamment sur la politique étrangère. Merci encore d'être intervenue sur nos ondes.
Je vous en prie.